Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soil, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Nous méditons aujourd'hui de nouvelles pensées de Pascal, et notamment les pensées consacrées à l'homme, le mystère de l'homme, l'énigme que l'homme est pour lui-même. Pascal observe que les hommes sont fous, et il médite ce qu'il appelle la folie de l'homme, et il médite cette folie en comparaison avec la folie de Dieu. Évidemment, c'est inspiré de la pensée de saint Paul. La folie de Dieu, ça veut dire que la manière d'agir de Dieu, ce que Dieu accomplit, à savoir l'incarnation, la mort sur une croix, tout cela est pour nous folie. Ce n'est pas ainsi que nous imaginons spontanément Dieu. Et face à cette folie de Dieu, c'est-à-dire donc cet agir incompréhensible pour nous, se tient la folie des hommes. Et en fait, c'est l'agir des hommes qui est folie aux yeux de Dieu. Les hommes sont si nécessairement fous que ce serait être fou par un autre tour de folie de n'être pas fou. Voilà donc une pensée de Pascal sur ce thème. La folie de l'homme est une folie ordinaire, commune, du fait de la nature déchue bien sûr, et cela veut dire que celui qui voudrait échapper à cette folie ordinaire tomberait dans une autre folie. Et donc il y a ici toujours ce renversement du pour au contre et ces paradoxes que Pascal affectionne. Nous le retrouvons dans une autre pensée dans laquelle Pascal parle de la raison en soulignant que la raison n'est pas raisonnable. Alors, c'est ce qu'on appelle un oxymore. Si je parle de l'obscure clarté qui tombe des étoiles, la clarté n'est pas obscure, la clarté est clarté, mais la clarté peut être obscure. Deux mots qui s'entrechoquent. Et ici, donc, l'entrechoquement, c'est celui entre la raison et le raisonnable. L'étonnant ici, c'est que la raison humaine ne soit pas raisonnable, qu'elle soit déraisonnable. Et cela, donc, confirme cette idée de folie des hommes. Pascal souligne la folie de la science humaine, folie de la philosophie aussi. Il a eu des mots extrêmement durs contre la philosophie, c'est-à-dire en vérité contre une certaine philosophie, cette philosophie qui croirait pouvoir connaître la vie même de Dieu et qui croirait pouvoir connaître toute chose, la nature, l'homme, la société, l'État, le juste, etc. Toutes choses que nous verrons. Nous regardons aujourd'hui plus précisément les magnifiques fragments consacrés au divertissement. Je lis un premier fragment. « Notre nature est dans le mouvement, le repos entier est la mort. » Un autre, « Condition de l'homme, deux points, inconstance, ennui, inquiétude. » Que veut dire Pascal quand il dit que notre nature est dans le mouvement ? Cette nature, nous rappelons que le mot nature a toujours deux significations chez Pascal, la nature primitive, la nature d'Adam auprès de Dieu, et la nature acquise, la seconde nature, ici au sens de nature de par le péché. Donc notre nature qui est dans le mouvement, c'est notre nature déchue, bien sûr. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est l'opposition entre le mouvement et le repos. Alors il faut faire aussi un peu d'histoire, en nous rappelant que les mots sont à prendre en des sens qui ne sont pas exactement ceux que nous utilisons tous les jours. Le mouvement, c'est un terme essentiel à la philosophie grecque, comme le repos, et l'idée de mouvement renvoie à l'idée de stabilité. Pardon, l'idée de mouvement renvoie à l'idée de changement. Tandis que l'idée de repos renvoie à l'idée de stabilité, de consistance, de sérénité aussi. Ce qui veut dire que dans le cas de cette pensée, la meilleure chose qui soit, c'est le repos et non pas le mouvement. Autrement dit, c'est la sérénité, la stabilité d'une chose qui demeure et non pas le fait d'avoir à changer parce qu'il y a insatisfaction là où on est ou dans ce que l'on est. Or, voilà ce que souligne Pascal, c'est que notre nature première était dans le repos, mais notre nature déchue est dans le mouvement, dans le changement. Nous aspirons toujours à changer de lieu, de mode, etc. Et nous n'aspirons qu'au changement et non plus au repos. Le repos entier est la mort. Voilà une chose étrange. Le repos entier, complet, devrait être la vie, la plénitude de la vie, mais le repos dans notre condition déchue est vécu sous le signe de la mort, sous le signe de l'ennui, comme nous le verrons. Deuxième fragment, condition de l'homme, inconstance, ennui, inquiétude. Trois mots sont ici importants, donc il s'agit de l'inconstance, donc l'absence justement de stabilité, de constance, de consistance, de permanence, l'ennui et l'inquiétude. L'inquiétude évidemment fait référence à saint Augustin, le fait que l'homme est justement sans repos. Inquiet, c'est être dans l'absence de repos, c'est-à-dire l'absence de paix, de sérénité, de plénitude. Et enfin, l'ennui. Alors, ce mot ennui est un des mots les plus importants des méditations de Pascal, et pour lui, il caractérise l'homme. Alors, sauf que le mot ennui, aujourd'hui, est connoté tout à fait différemment. Quand nous pensons à l'ennui, quand quelqu'un dit « je m'ennuie », cela veut dire simplement qu'il sent l'absence d'intérêt à l'égard d'une certaine chose. L'enfant, l'élève qui s'ennuie à l'école, par exemple. Mais il faut nous rappeler que le mot « ennui » vient du latin et que la racine, c'est le mot « odium » en latin. Donc, l'ennui vient du verbe « inodiare » et « inodium ». Cela signifie littéralement « être dans la haine ». L'ennui, si nous regardons son étymologie, donc est un mot extrêmement fort qu'emploie Pascal. L'ennui renvoie l'idée d'une tristesse profonde, d'une mélancolie, d'un tourment. Et dans le sens courant aujourd'hui, l'ennui renvoie au sentiment du vide, à l'absence d'intérêt. Quelqu'un qui s'ennuie dans un métier, dans une activité, donc il n'a pas d'intérêt, il ne prend pas de goût, de plaisir à cette chose. Donc il faut nous rappeler ici le sens profond de l'ennui. Cette mélancolie, ce tourment, et nous rappeler à partir de l'étymologie que le véritable ennui procède d'une haine. Alors l'ennui à l'égard d'une activité vient du fait d'une aversion, est une aversion à l'égard de cette activité. Et donc ça peut être un ennui, c'est-à-dire une haine par rapport à tout ce qui n'est pas moi, tout m'ennuie, comme nous disons. Mais plus profondément, cela cache, ou plutôt ici cache et révèle à la fois, une haine de soi. Et un des thèmes les plus importants de la pensée de Pascal, c'est cette notion de haine de soi-même. Quand nous pensons à la haine, nous pensons toujours à la haine à l'égard d'autrui, un homme qui en est un autre, la haine entre des classes sociales, entre des peuples, etc. Mais la haine la plus secrète et la plus nuisible, la plus effrayante, si nous pensons, c'est la haine que chacun éprouve à l'égard de soi-même. Et donc ce thème de l'ennui nous ramène à la haine à l'égard de soi. C'est la haine à l'égard de soi qui sera la haine à l'égard de tout ce qui n'est pas soi, tout ce qui n'est pas moi. Et donc méditer sur l'ennui, c'est méditer sur cette aversion que l'homme éprouve à l'égard de soi-même et à partir de là, à l'égard de tout. Vous voyez bien ici que nous sommes dans le négatif à l'égard du fameux commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Le commandement nous demande d'aimer notre prochain, de nous aimer nous-mêmes, et selon la même mesure d'aimer notre prochain et nous-mêmes. Nous voyons ici un échec de l'amour de soi et de l'amour d'autrui, renversé en une haine de soi et par conséquent une haine d'autrui. Continuons cette méditation. Je lis un fragment important. Ennui. Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent, il sortira du fond de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. Voilà un des fragments les plus significatifs de Pascal sur l'ennui. Et l'ennui est le titre de ce fragment. Normalement, en situation saine, un homme devrait éprouver une joie d'être affranchi du changement, affranchi de la mode, de la variabilité, et de pouvoir être dans un plein repos. Plein repos au sens que j'ai signifié, c'est-à-dire dans la plénitude, dans la paix, dans la sérénité. Mais voilà que notre situation est telle que le repos nous est insupportable. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que ce qui nous est insupportable, c'est de nous retrouver seuls avec nous-mêmes, sans passion, donc sans émotion, sans sentiment, parce qu'il n'y a pas, mettons, les choses au goût du jour, et parce qu'il n'y a pas une émission intéressante à la télévision ou une série sur Netflix ou ailleurs. Voilà un homme sans passion, sans émotion. Voilà un homme sans affaire, que cette affaire soit une affaire au sens financier du terme, ou une affaire de cœur, ou une affaire de cours, ou ce que l'on voudra. Voilà enfin un homme sans divertissement. Et le mot divertissement est pour la première fois aujourd'hui prononcé, et c'est cela qu'il faudra voir, justement, la signification de ce divertissement. Donc, quel est l'état d'un homme qui se trouve sans rien, sans divertissement, sans application ? Que dit Pascal ? Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, etc. Ça veut dire que l'homme, revenu à lui-même, rejeté sur lui-même, au lieu de revenir à soi pour éprouver la plénitude de son être, le fait pour découvrir ce que nous avons vu, que Pascal appelle le néant de son être. Revenir à soi, c'est découvrir son néant. Découvrir que je n'ai pas en moi-même et par moi-même la ressource, la puissance d'être, et par conséquent la joie d'être. L'homme rejeté sur lui-même sent alors son abandon. Abandon, ça veut dire qu'il est comme abandonné à lui-même, livré à lui-même, incapable de se donner la vie, incapable d'être l'auteur de l'être. Il sent alors son insuffisance, ici insuffisance au sens le plus profond, au sens ontologique. Sa dépendance, cela signifie qu'il sent que son être lui est donné, lui est communiqué, qu'il n'en est pas l'auteur, et que donc il dépend de celui qui incessamment lui communique cet être. Puisqu'il sent qu'il dépend d'un autre, qui est ici pour l'instant indéterminé, inconnu, il découvre son impuissance, cette impuissance est l'impuissance métaphysique, ontologique, l'incapacité de se donner l'être. Il découvre donc son vide. Quelle est alors la solution de l'homme, solution en fait erronée, illusoire? Eh bien, mais solution véritable, enfin en ce sens que c'est bien ce que nous expérimentons. Incontinent, il sortira du fond de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. Alors je ne commenterai pas chacun de ces termes, mais nous voyons qu'un homme seul avec soi-même, au lieu d'éprouver la joie de son être, découvre le néant de son être, et par conséquent, il tire du fond de son âme, c'est l'expression la plus importante, il tire du fond de son âme l'ennui. L'ennui, c'est-à-dire la haine de soi. Découvrant ce qu'il est, qui il est, le néant de son être, le néant de son âme, il ne peut pas ne pas être tenté et il ne peut pas ne pas se haïr soi-même. Il découvre donc l'ennui, au sens de la haine de soi. Il découvre la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, dernier mot capital ici, le désespoir. Pascal écrit donc ici un fragment capital sur le désespoir. L'ennui nous conduit au désespoir, la haine de nous-mêmes nous conduit au désespoir.
Les penseurs chrétiens, Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Continuons notre méditation sur l'ennui, notre méditation sur le divertissement. Que signifie divertissement? Au sens courant, l'homme aime à se divertir, c'est-à-dire à s'amuser, à penser à autre chose qu'à ses soucis qui peuvent l'accabler. Et donc il va à la chasse, il va au cinéma, il regarde un film à la télévision, etc. Le mot divertissement, en fait, il faut le regarder de près et voir sa racine. Sa racine, c'est le verbe wertere en latin, qui veut dire tourner, et dis, qui indique ici l'éloignement et le renversement ou la perversité. Donc le dis, le divertissement, c'est le détournement. L'homme qui se divertit est un homme qui se détourne. De quoi se détourne-t-il? Eh bien, il se détourne de la vérité. Il se détourne du bien. Et sous les apparences de quelque chose d'anodin ou d'insignifiant, l'homme qui se divertit, Pascal découvre en fait des abîmes. Il découvre que ce divertissement qui fait que nous aimons à nous distraire, à nous amuser, etc., manifeste, si nous savons voir, le néant de notre être, le néant de notre nature, et manifeste que cet amusement qui a l'air insignifiant cache un malheur, cache un homme qui se détourne de la vérité. Regardons. Pascal prend comme exemple le soldat qui se plaint de la peine qu'il a, ou le laboureur, et il propose qu'on les mette sans rien faire. Si on met cet homme qui se plaint de sa peine, de son travail, sans rien faire, il s'ennuie. Et il s'ennuie au sens que nous venons de voir, c'est-à-dire il découvre le néant de son être. Il découvre qu'il n'a pas en lui-même et par lui-même le ressort, la puissance d'être, et donc il finit par se haïr soi-même. Continuons. Je lis un autre fragment très important, très peut-être bien connu de Pascal, qui dit ceci. « Rien ne nous plaît que le combat, mais non pas la victoire. On aime avoir les combats des animaux, non le vainqueur acharné sur le vaincu. Que voulait-on voir, sinon la fin de la victoire ? Et dès qu'elle arrive, on en est sous. Ainsi dans le jeu, ainsi dans la recherche de la vérité. Pascal ajoute, nous ne cherchons jamais les choses, mais la recherche des choses. Apparemment, l'être humain recherche des choses, de l'argent, de la considération, etc. Mais si nous savons voir, nous découvrons que dans cette recherche des choses, en fait, il y a quelque chose d'autre qui est en jeu, c'est la recherche. Ce n'est pas la recherche de la chose elle-même, mais la recherche elle-même. Nous ne cherchons jamais les choses, mais la recherche des choses. Et donc ici, le désir de l'homme a quelque chose de vain, de nouveau, quelque chose de vide. Parce que nous croyons poursuivre quelque chose, nous croyons viser un certain bien, et nous croyons que nous serons contents quand nous posséderons ce bien, qui peut être de l'argent, une voiture, un honneur, etc. Mais en vérité, nous apercevons, et c'est là le problème du divertissement, que à travers cette recherche de ce bien apparent, ce que nous cherchons, c'est la recherche elle-même. Ce que nous cherchons, ce qui nous plaît, c'est le désir, c'est-à-dire le divertissement. C'est le fait que, pendant que nous sommes occupés à chercher cette chose, nous sommes divertis. C'est-à-dire, littéralement, nous ne pensons pas aux choses importantes, aux choses essentielles. Pascal ajoute, donc, sans examiner toutes les occupations particulières, il suffit de les comprendre sous le divertissement. Au niveau vulgaire, au point de vue vulgaire, je veux dire, nous pouvons donc opposer l'homme sérieux d'un côté à l'homme du divertissement de l'autre. Mais Pascal nous montre que cette distinction est fausse. Aussi bien l'homme le plus sérieux du monde, le banquier, l'homme d'affaires, le médecin qui passe sa vie à soigner, qui risque sa vie, etc. Tous ces hommes-là, tout autant que l'homme qui s'amuse perpétuellement, tous tombent sous le coup du divertissement. Il y a divertissement, que l'on soit sérieux ou frivole, dès lors que tout est fait pour ne pas penser. Et voilà la profondeur de Pascal. L'homme du divertissement, c'est chacun d'entre nous. Nous pouvons faire les choses les plus sérieuses du monde, avec le plus de conviction, de sérieux, d'engagement. Et cependant, cela peut n'être qu'un divertissement. C'est-à-dire qu'un masque qui nous permet de nous masquer la vérité, qu'une illusion, qu'un détournement qui nous permet de nous détourner de l'angoisse de notre situation et de la recherche de la vérité. Je lis un autre fragment. Titre « Divertissement ». Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent, dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Formule célèbre de Pascal. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Voilà donc Pascal qui englobe toutes les agitations, comme il dit, des hommes, qu'elles soient sérieuses ou frivoles, peu importe ici. Tout le malheur de l'homme vient de son incapacité d'éprouver le repos, de goûter le repos. Tout le malheur de l'homme vient du fait qu'il est toujours dans l'agitation, toujours dans le mouvement, c'est-à-dire dans le changement, qu'il n'a de persévérance en rien, à l'égard de rien, et que la seule chose qui le console apparemment, mais nous verrons que ce n'est qu'apparent, c'est justement de changer perpétuellement d'objet. En changeant perpétuellement d'objet, ou en ayant il a l'illusion d'un contentement, et en fait, il finit toujours par sentir son néant. Mais, je continue la lecture de Pascal, mais quand j'ai pensé de plus près qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison. J'ai trouvé qu'il y en a une bien effective qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. Voilà, là c'est la perspicacité de Pascal que nous découvrons. Il parle du malheur naturel de notre condition faible et mortelle. Qu'est-ce que l'homme ? L'homme n'est ni ange ni bête, il est dans l'échelle des êtres entre les deux, et sa situation telle que nous l'éprouvons est une situation de malheur. Cela veut dire que nous pouvons bien sûr avoir des jours heureux, être en bonne santé, être honoré, etc. Mais il y a quelque chose qui est dans notre statut lui-même et qui fait que ce statut est malheur. Le malheur naturel de notre condition faible et mortelle. Voilà donc ce qui cause le malheur de l'homme, le malheur empiriquement observable tous les jours. Et ce que Pascal comprend ici, c'est justement le problème du divertissement. il prend l'exemple du roi. Giono écrira un livre, Un roi sans divertissement, en s'inspirant des pages de Pascal que nous méditons, en montrant que la royauté est le plus beau poste du monde, mais un roi sans divertissement sera l'homme le plus malheureux du monde. Pascal montre donc que pour tout homme, quel que soit son état social, sa situation, sa condition, etc., le divertissement lui apparaîtra toujours comme une issue, comme un art de vivre, en lui donnant l'espoir, justement, de parvenir à ce qui s'appelle le bonheur. Mais toute la finesse de Pascal consistera à montrer que ce divertissement, dont nous croyons qu'il fera notre bonheur, fera, au contraire, le malheur, ou plutôt redoublera et accentuera le malheur. Je cite un autre passage de ce fragment. « Le roi est environné de gens qui ne pensent qu'à divertir le roi et à l'empêcher de penser à lui, car il est malheureux, tout roi qu'il est, s'il y pense. » Voilà donc la cause profonde du malheur de l'homme. La cause profonde, première, nous l'avons vu, c'est l'idée de péché originel. Et la cause, à partir de là, la nouvelle cause, c'est justement le divertissement, c'est-à-dire l'épreuve du néant de notre être. Il y a certaines situations qui sont telles qu'elles nous font sentir notre insuffisance, notre abandon, notre néant, et cela nous désespère. Alors que faisons-nous ? Eh bien, nous essayons de sortir de cet état, de sortir de ce sentiment, en nous étourdissant de différentes façons. Nous pourrions ajouter à la liste des divertissements que donne Pascal aujourd'hui, la drogue, l'alcool, la télévision, tout ce qui est fait pour nous détourner de nous-mêmes. Puisque je l'ai dit, divertir, c'est détourner. Se divertir, donc, c'est se détourner de la vérité. Ne pas penser. Quelle est la grandeur de l'homme ? Quelle est la vocation de l'homme ? C'est la pensée. Et voilà une chose étrange, c'est que cet homme qui est né pour penser, qui est appelé de par sa propre nature à exercer la pensée, voilà qu'il éprouve la pensée comme un malheur, comme une difficulté, comme un poids. Et voilà donc que cet homme qui a reçu cette merveille, que nous pouvons appeler la conscience aussi, vit cette conscience, ou peut vivre cette conscience, comme un poids, comme un fardeau, comme quelque chose qui l'ennuie, et comme quelque chose dont il voudrait pouvoir se libérer. Nous voyons donc l'homme ici, capable de penser, appelé à la pensée, et pourtant se refuser à la pensée. Se refuser à la pensée de quelle manière ? Eh bien, par le divertissement, en cherchant à s'amuser, en cherchant le combat. Mais, j'insiste, ce combat, c'est le combat lui-même qui nous plaît, et non pas la victoire. Pascal nous le montre par différents exemples qui nous restent à examiner.